Bonjour, tournez avec moi dans Jean 14, s'il vous plaît. On va tourner dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. On a des Bibles à l'arrière, si jamais il y a des personnes qui désiraient suivre dans la Bible et vous n'avez pas une Bible avec vous, juste levez la main, puis il y a quelqu'un qui va venir vous porter une Bible tournée dans Jean 14. C'est bon de voir les paroles directement, de les lire par vous-même. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour cette matinée, merci Seigneur pour ce beau témoignage. Éternel, nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu, parce que tu es le Créateur des cieux et de la terre. Nous croyons, Seigneur, que tu es là, tu es présent au milieu de nous, spirituellement, bien présent dans nos cœurs et que tu désires nous parler par ta parole. Nous voulons ce matin, par ce service, t'adorer, Seigneur. En prenant ce temps par des louanges, par des chants, en prenant ce temps pour te célébrer, simplement s'assembler ainsi le dimanche matin, nous voulons reconnaître que tu es là, que tu existes et que la vie n'est pas simplement une vie animale, avec une naissance et une mort, mais une vie spirituelle aussi, et qu'il y a un Créateur au-dessus de toute chose. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es la révélation par excellence de ton Père, de Dieu. Je te prie d'être avec moi ce matin, soit avec mes paroles, soit avec nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs à recevoir ta parole. Et que tout ceci ne soit pas que simple réflexion philosophique, Seigneur, ou simple religiosité, mais que ce soit vie dans nos cœurs, Seigneur. Et paix et joie, bonheur, comme Étienne l'a mentionné. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, dans quelques minutes, on va assister à un baptême. C'est un très vieux symbole chrétien, un peu comme le repas du Seigneur qu'on va prendre la semaine prochaine. C'est une tradition, on peut le dire comme ça, c'est une tradition chrétienne, mais c'est pour nous un symbole qui est riche. Même cette semaine, j'étais en train de discuter avec Alexandre, puis on se disait, il y a plus que ce qu'on dit sur le baptême, il faudrait aller plus loin. Et par son baptême, Étienne va témoigner, comme il l'a dit, de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Il veut témoigner de sa relation avec cette personne qui est Jésus-Christ. Ce matin, je veux prendre quelques minutes pour vous parler de Jésus-Christ, ou Jésus de Nazareth dit le Christ, le Messie, le Sauveur. Je veux vous parler de lui un petit peu. La première chose que je voudrais dire, et je pense que c'est important de le dire à notre époque, je suis très informé, je lis beaucoup les journaux, puis on voit bien la perception générale que les gens peuvent avoir de Jésus, du christianisme, tout ça. La première chose que je voudrais dire, Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder une religion, pour monter une méga institution qui allait devenir un endroit de pouvoir, qui allait pouvoir conduire, manipuler, opprimer les gens. Ce n'était pas dans les desseins de Jésus-Christ, ce n'était pas dans ses objectifs du tout. Et je prends le temps de mentionner cela parce que je ne connais pas votre arrière-plan à vous. On n'est plus au Québec d'il y a 50 ans qui, admettons-le, pouvait projeter une image du christianisme qui pouvait être assez oppressante, mais qui en même temps avait une culture biblique beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Je ne connais pas votre arrière-plan. Je ne sais pas ce que vous connaissez de ce personnage-là. Je ne sais pas si tout ce que vous en savez, c'est ce que vous avez vu dans un film il y a quelques années sur des conspirations mondiales avec une vieille église qui cache toutes sortes de choses. Ou si vous connaissez seulement Jésus de Montréal, puis pour vous, Jésus, ça se résume à ce film-là, ce vieux film-là. Je ne sais pas quelle est votre culture. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, si vous avez déjà lu les Évangiles. Voici ce que je comprends du message de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth. Ce que j'en comprends, c'est que Jésus est venu dans un objectif premier, et c'est le passage qu'on va regarder ensemble ce matin. Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu. celui qu'il appelait intimement le Père. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous faire connaître Dieu le Père. À travers ses enseignements, à travers ses gestes, ses actions, à travers sa personne, à travers ses œuvres et tout spécialement à travers une œuvre qui est celle de la croix. À ce moment où Jésus-Christ s'est offert volontairement en sacrifice sur cette croix, il nous a fait connaître Dieu par excellence, de manière parfaite. Et je crois que c'était ça le but et le message de Jésus-Christ. J'aimerais mentionner aussi, je crois que c'est la compréhension que les premiers disciples ont eue de Jésus-Christ. Je pense que c'est ça que les premiers disciples ont retenu comme message de Jésus. Quand on prend le temps de lire les évangiles, il y a 4 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a ce privilège d'avoir ces différentes perspectives sur les paroles, les actions de Jésus. Je pense que c'est ce que les premiers disciples ont retenu aussi. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, ils ne voyaient pas le message de Jésus comme celui de fonder une nouvelle religion, une méga institution, quelque chose qui allait pouvoir dominer, oppresser les hommes. Mais ce qu'ils avaient compris de son message, et ils l'ont compris beaucoup mieux après sa crucifixion, et comme il le raconte, sa résurrection, ce qu'ils ont retenu de son message, c'est que Jésus est venu pour faire connaître Dieu et conduire les hommes vers Dieu, afin que les hommes entrent dans cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est possible de lire ça. Vous savez, je ne connais pas votre arrière-plan encore une fois, mais c'est possible de lire par vous-même ces choses-là. De lire dans les Saintes Écritures, on a la Bible, on a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme je mentionnais. Alors, c'est possible simplement de prendre un des 4 évangiles et de le lire en quelques heures, 7-8 heures, vous allez avoir terminé de lire un des évangiles. Vous allez pouvoir vous faire une opinion par vous-même, éclairer par vous-même, non pas de ce que vous entendez généralement. Nous vivons à un ère post-chrétien et ce qu'on entend en général, c'est une pensée populaire qui est entachée par toutes sortes d'hommeries que vous pouvez voir à travers toutes sortes d'institutions, c'est vrai. Mais aussi à travers des candidat-on sur le christianisme. Pourquoi ne pas vous faire une idée par vous-même? Parce que cet homme-là, Jésus de Nazareth, qui était à quelque part un homme comme vous et moi, qui a vécu v'là 2000 ans, cet homme-là, a marqué l'histoire de l'humanité d'une manière indéniable. Et encore aujourd'hui, des millions de personnes veulent entendre son message, boivent à ses paroles. Alors, c'est possible pour vous simplement de prendre un des 4 évangiles. Commencez par là, la Bible. La Bible est composée de 66 livres. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la Bible pour vous faire une idée, d'accord? Je pense que le livre est tellement impressionnant que plusieurs se découragent avant de se lancer. Mais simplement prendre un des 4 évangiles. Mon évangile préféré, c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile de Jean, ça a toujours été mon évangile préféré. Je pense que c'est plus accessible de commencer avec Marc. Plus simple, plus accessible dans un premier temps. Vous lisez un évangile, vous entendez ses paroles. Vous voyez ses actions, telles que les premiers disciples les rapportent, ceux qui ont été des témoins oculaires, ceux qui ont été prêts à mourir pour ce qu'ils racontaient. Une des choses qu'on entend souvent, c'est que ce livre-là a été transformé, puis probablement qu'on a mythifié ce personnage-là. On a voulu en faire un dieu après qu'il ait existé. Puisqu'il était un philosophe extraordinaire, on a voulu en faire un être plus grand que nature. Mais il faut savoir que la vaste majorité des premiers disciples, des 12 apôtres et plusieurs, un grand nombre, des centaines de disciples au départ, ont été prêts à mourir pour rendre témoignage que ce qu'ils disaient, même si ça semblait complètement farfelu, ce qu'ils disaient était vrai et ils sont morts pour ça. Aujourd'hui, lorsqu'on entre en contact avec notre image du christianisme, on peut avoir l'impression qu'on entre en contact avec l'opulence, la richesse, tout ça, avec des méga institutions. Et on peut avoir l'impression que tout ça est là simplement pour maîtriser, pour dominer les gens. Mais il faut savoir que ces premiers disciples-là n'ont rien gagné personnellement dans tout cela. Ce qu'ils avaient à gagner, ils l'ont gagné dans leur relation personnelle avec Jésus-Christ, dans leur communion personnelle avec Dieu. Et c'est devenu une conviction tellement forte qu'ils étaient prêts à perdre tout le reste. Le confort, la santé, les biens matériels, la vie, simplement pour pouvoir partager ce message-là à une autre personne. Partager cela à une personne de plus qui va croire, qui va recevoir ce message-là, en venir à la connaissance du Père et passer par les eaux du baptême pour en rendre témoignage. C'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils ont rendu témoignage dans les Écritures. Et aujourd'hui, c'est accessible. La Bible est disponible dans des centaines de langues, dans un grand nombre de très bonnes traductions. Et je vous invite simplement à lire vous-même. Et si vous venez d'une famille chrétienne, vous avez entendu des histoires sur le christianisme, mais est-ce que vous avez pris le temps? Je m'adresse aux jeunes, entre autres. Est-ce que vous avez pris le temps de prendre l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, et simplement de la lire tranquillement avec un cœur humble qui dit « Ok, c'est bien, on m'a enseigné ça à l'église, mes parents croient ça, des fois je les trouve too much, mais c'est ce qu'ils croient et je vais, moi, aller à la rencontre de Dieu. Et si ce Dieu-là est là, il va se révéler à moi à travers sa parole. Je vous encourage à le faire. Parce que nous avons cette conviction que Dieu existe et que c'est sa responsabilité à lui de se révéler à vous à travers sa parole. C'est à lui de vous convaincre. Ce n'est pas à moi de convaincre mes enfants de devenir chrétiens, de se faire baptiser. Je leur partage ma foi, je leur enseigne les Écritures, mais cette conviction profonde qui fait qu'un individu décide en 2012 d'adhérer à la foi chrétienne, qui est tellement contre-courant, contre-culturel, admettons-le, cette décision-là relève de quelque chose qui se passe entre Dieu et cette personne. Une conviction qui est déposée dans son cœur par l'Esprit Saint. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, dans Jean 14, je vais prendre encore quelques minutes seulement avec vous, peut-être 10 minutes environ, mais je désire aller concrètement dans un texte et essayer de résumer un peu ce message de Jésus, d'accord? Dans Jean 14, simplement pour vous mettre dans le contexte, on est vraiment vers la fin de son ministère public et Jésus se prépare. Les premiers disciples nous disent que Jésus savait que son arrestation s'en venait. En fait, les premiers disciples nous disent, parce qu'ils l'ont compris après, lorsqu'ils ont rédigé ces évangiles, ils nous disent que, en fait, Jésus était venu pour ce moment où il allait être arrêté, crucifié, puis ressuscité d'entre les morts. Et ils sont morts eux-mêmes pour témoigner de cela, tellement ils en étaient convaincus. Alors, on arrive dans ce moment où Jésus veut préparer les disciples à ce qui s'en vient parce que lui le sait, mais eux ne saisissent pas, ne comprennent pas les enjeux. Ce qu'ils ont saisi jusqu'ici, c'est que cet homme, Jésus de Nazareth, est plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu, il est celui que Dieu a envoyé pour venir sauver les hommes, mais ils ne saisissent pas encore que ce salut-là va être opéré à travers un sacrifice. Ils sont plus dans l'ordre d'une délivrance. Il va venir établir un royaume sur la terre. Il va venir établir un royaume où il va y avoir la justice, la paix, la droiture. Et donc, il va, s'il le faut, lever une armée. Il va être un roi. Et c'est comme ça qu'il voit les choses à ce moment-ci. Jésus est conscient de cela. Il dit, dans quelques heures, les amis, toutes vos certitudes vont s'effondrer. Parce que vous allez me voir pendu au bois, vous ne comprendrez pas ce qu'il pense. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Parce que je vais revenir après. Et vous allez saisir ces choses. Simplement pour vous mettre dans le contexte, Jean 14, verset 1, on va aller jusqu'au verset 12. Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, qui est connu pour sa son incrédulité par moments lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, un autre des apôtres lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Admettons que c'est un passage un peu mystique ou mystérieux. Essayez de vous mettre dans la perspective où les premiers disciples n'ont pas vu encore la crucifixion. Alors, ce qu'ils peuvent saisir, j'essayais de réfléchir cette semaine, de me dire, OK, qu'est-ce qu'ils pouvaient honnêtement saisir à ce point-ci? Je pense qu'ils pouvaient comprendre que lorsque Jésus disait qu'il s'en va auprès du Père, il était en train de dire qu'il allait dans la présence de Dieu, qu'il allait rejoindre Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est ce chemin, si Jésus est le chemin vers le Père? Il y a beaucoup de choses qui vont tomber en place dans l'esprit des disciples après la mort de Jésus, mais surtout après sa résurrection. Et en fait, les Saintes Écritures nous disent, et c'est ce que les premiers disciples racontent, Dieu leur a donné ensuite l'Esprit Saint. Jésus l'avait promis. Il avait promis que même une fois parti physiquement, il demeurerait présent spirituellement et qu'il enverrait son Esprit dans les cœurs de ceux qui croient, afin qu'ils puissent saisir ces choses qui étaient obscures, qui n'étaient pas claires à ce moment-là, davantage et entièrement. J'aimerais ça résumer ces versets-là en trois points, d'accord? On a l'habitude de faire ça en trois points ici. J'en avais quatre, mais un pasteur, ça prend juste en trois points, fait que je l'ai laissé tomber. Mais j'aimerais ça vous le résumer en trois points. Et vous avez ça, vous avez un inséré à l'intérieur de votre dépliant. Vous pouvez simplement prendre le temps de lire ça et peut-être prendre le temps d'aller relire Jean 14 cette semaine et voir si vous voyez de manière évidente, vous aussi, ça dans le passage. Voici comment je le résumerais. Selon Jésus-Christ, selon ce qu'il a affirmé, ce que ses premiers disciples croyaient, puisqu'il nous le rapporte comme ça avec une très grande conviction, Jésus-Christ est le chemin qui nous mène à la connaissance de Dieu le Père. Alors, le premier message de Jésus, c'est très simple. Croyez en moi. Croyez que je suis ce chemin qui mène au Père, ce seul chemin, comme on va voir, qui mène au Père. Deuxième point, croyez en lui. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, croire en Jésus-Christ? Voici comment Jésus le résume dans ce passage. Aimez-le. Aimez Jésus-Christ et observez ses préceptes, observez ses commandements. Faites-les vôtres comme style de vie, comme manière de vivre, afin de connaître le Père et de le connaître de plus en plus. Premièrement, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui sont de l'Assemblée ici, vous savez que je prends des cours de karaté, je fais ça depuis une couple d'années, j'aime les arts martiaux, ça me fascine depuis que je suis tout petit, puis j'avais une espèce de vieux fantasme. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire des arts martiaux, puis ça m'a toujours fasciné, puis je découvre que je ne ferai jamais la split de ma vie, puis bon, c'est correct, on s'adapte un petit peu. Je suis juste en train de me préparer à recommencer mes cours dans une semaine ou deux, puis ça fait trois semaines que je fais des push-ups, des set-ups pour ne pas me blesser quand je vais recommencer. Mais dans tout ce qu'il y a de films de ninja, puis d'arts martiaux, puis tout ça, il y a un concept qui est là, qui est présent, qui est maintenant assez présent aussi, en général, dans la société. C'est cette idée que chaque individu, et dans le cas des films d'arts martiaux, c'est chaque guerrier, évidemment, doit trouver sa voie. Il doit trouver sa voie à lui, puis ça va venir de lui, ça va être sa voie personnelle. Et c'est lorsque tu trouves ta voie que tu vas être capable de devenir un maître. Et cette idée-là, puisqu'on a été tellement influencé par des pensées nouvel âgistes, tout ça, des philosophies moyen-orientales et orientales, cette idée-là de trouver ta voie est présente dans la culture en général, n'est-ce pas? On discute avec les gens, puis les gens nous disent « Ouais, mais je suis content pour toi. Tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé ta voie à toi. C'est pas la mienne, mais c'est important. Hein? T'es en paix avec toi-même. T'es bien avec toi-même. De trouver ton chemin à toi. » Le message de Jésus est contre-culturel. Et ce serait tentant, voire facile d'essayer d'intégrer Jésus dans une espèce de vision semblable où chaque individu va trouver sa voie, mais ce n'est pas pour ce message-là que les premiers disciples sont morts. Les premiers disciples ont donné leur vie eux-mêmes en sacrifice pour défendre ce que Jésus avait affirmé. Et ce que Jésus affirme, on le trouve ici au verset 6, dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et comme s'il y avait un risque que le tout ne soit pas clair, il ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Selon Jésus-Christ et selon les premiers disciples, Jésus-Christ n'est pas une voie. Il n'est pas une voie individuelle, il est la voie. Il est le chemin. En fait, l'évangile de Jean commence en nous disant que Jésus est le Logos. Et cette idée, lorsque l'évangile de Jean commence, puis parle de la parole, Jésus-Christ est la parole, le Logos. Le concept était présent déjà dans la culture grecque de l'époque. Jésus est le principe unificateur de toutes choses. Et c'est cette idée-là qui est présente. Les premiers disciples avaient la conviction que Jésus n'est pas une voie, mais qu'il est la voie, qu'il est le principe par lequel nous accédons à la connaissance de Dieu le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que c'est difficile à accepter parce qu'on se dit, oui, mais écoute, il y en a peut-être à l'époque, c'est un message qui pouvait passer. À l'époque, les gens étaient dans leur petit milieu restreint, puis ils ne réalisaient pas à quel point il y a tant de millions et de millions de personnes un peu partout sur la terre qui ont une autre conception de la terre. Mais il faut savoir que cette vision du christianisme de l'époque est déjà, je dirais, mal informée parce que Jésus est venu à une époque qui était déjà multiculturelle. Et le message des premiers disciples est apporté dans un contexte à l'intérieur de l'Empire romain qui était déjà multiculturel. Et les courants de pensée, les philosophies et les religions et les leaders spirituels qui apportaient une lumière ou une autre étaient déjà très nombreux. Alors voyez-vous, déjà à cette époque-là, le message que Jésus apporte lorsqu'il dit « Je suis la voie, je suis le chemin » était déjà contre-culturel. Et Jésus fait une affirmation énorme, c'est vrai, au verset 6, lorsqu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Puis il va jusqu'à dire au verset 9 et 10 « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus-Christ affirme qu'il est la personne par excellence par laquelle Dieu le Père est révélé. Et c'est pour ça que j'essaie de vous encourager à lire les évangiles, parce que lorsqu'on prend le temps de lire un des quatre évangiles, puis même les quatre évangiles, on côtoie Jésus. On côtoie Jésus lorsqu'il entre en relation avec des gens qui sont marginaux, qui sont rejetés de la société. On côtoie Jésus lorsqu'il va confronter l'hypocrite, le religieux, le prétentieux. On côtoie Jésus lorsqu'il fait face aux éléments. On côtoie Jésus lorsqu'il fait face à la mort. Et côtoyer Jésus, écouter ses enseignements, le voir agir, voir ses réactions, simplement lire ces moments extraordinaires où il est pendu au bois et il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », c'est découvrir Dieu. C'est découvrir Dieu comme nul autre n'a révélé Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'on apprend à le connaître, nous fait connaître Dieu. Cet être invisible, intangible, devient concret dans notre esprit et dans notre foi parce qu'on découvre, voici comment Dieu regarde les hommes pécheurs. Voici comment Dieu regarde les hypocrites. Voici comment Dieu regarde la religiosité. Voici comment Dieu regarde le péché. Voici comment Dieu regarde les gens qui sont rejetés, qui sont marginaux, les mal-aimés de la société. Voici comment Dieu conçoit la douceur, la sainteté, la justice, la droiture. Voici le regard de compassion que Dieu dépose sur les hommes. Et moi j'ai besoin que Dieu soit plus concret. J'ai tellement aimé ça lorsque je lisais cette semaine le témoignage d'Étienne. J'ai tellement aimé ça, son image de la lanterne. J'ai besoin que Dieu soit plus concret qu'une lumière diffuse. Où j'imagine qu'il y a un créateur quelque part qui gouverne toutes choses, mais Qui est-il ici absent? Et j'ai besoin qu'il soit concret comme il l'est à travers la personne de Jésus-Christ. Que je puisse savoir ce qu'il pense des gens qui souffrent, des gens qui souffrent des injustices. Parce que je lis le journal tous les jours. Et ce serait impossible pour moi et intolérable de lire le journal tous les jours si je n'avais de Dieu qu'une vision d'un Dieu quelconque et silencieux. J'ai besoin de savoir qu'il revient un jour. J'ai besoin de savoir qu'il prend à cœur la souffrance des hommes et qu'il jugera un jour tous les mensonges, toutes les hypocrisies, toutes les fourberies, toutes les violences, tous les abus qui sont faits. J'ai besoin de savoir ça pour avancer avec un cœur serein dans cette vie. Jésus-Christ est venu pour nous faire connaître Dieu le Père et son message était relativement simple, « Croyez en moi ». Et puis il dit, « Pourquoi est-ce qu'on croirait en lui ?» Vous savez, il y a des gens extraordinaires sur la terre. Il n'y a pas juste Jésus qui est extraordinaire. Neil Armstrong vient de décéder. Il y avait un autre Armstrong qui est peut-être moins extraordinaire qu'on pensait, dont on a entendu parler cette semaine. Mais Neil Armstrong vient de décéder. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables. Et ils sont fascinants. J'aime lire leur biographie. Et il y a même des gens qui nous ont éclairés sur une philosophie de vie de manière géniale. Pourquoi est-ce qu'on placerait Jésus dans une classe à part? Pourquoi est-ce qu'il serait monté sur un piédestal puis se distinguerait des autres? Bien, je vous dirais, l'œuvre qui est unique à Jésus-Christ, c'est celle qu'il a accomplie à la croix. Et à ce moment-là, lorsque Jésus parle aux disciples, il dit aux disciples, « Vous allez voir, les choses vont tomber en place. Que votre cœur ne se trouble point. Après, vous allez saisir bien des choses. » Parce que d'une manière unique, Jésus, comme leader spirituel, a fait plus qu'être un leader spirituel. Il est devenu celui qui s'est offert en sacrifice. Tout à l'heure, Étienne a fait allusion à ce moment où Abraham va avec son fils sur le mont Sinaï, et puis Dieu veut éprouver sa foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ceux qui n'êtes pas au courant. Il n'a pas tué Isaac, d'accord? Fait que Dieu éprouve la foi d'Isaac et lui dit « Va conduire ton fils et tu vas sacrifier ton fils comme on sacrifiait des animaux à l'époque. » Et quel test, à la limite cruel, parce que comment est-ce que tu fais pour comprendre ça? Mais Abraham avait la foi que Dieu pouvait lui redonner son fils et lui demandait de faire ça. Et au dernier moment, Dieu va lui dire « C'est bon, j'ai vu que tu as la foi, il va substituer un bélier comme sacrifice. » Mais on comprend aujourd'hui que tout ceci présageait, annonçait, préfigurait ce que Christ allait venir faire. Parce que Dieu le Père a conduit son Fils. Et il suffit de lire le récit du jardin de Gethsémané pour comprendre que le Père conduit le Fils-là et le Fils connaît l'angoisse qui s'en vient, ce qu'il va traverser. Mais le Père va conduire le Fils sur cette montagne. Et il n'y aura pas de substitution. Il n'y aura pas de bélier, il n'y aura pas d'autre sacrifice. Parce qu'il vient s'offrir en sacrifice vivant. Lui qui était aussi parfait qu'on peut le lire à travers toutes ses paroles, toutes ses actions, il était parfait. Vous lirez son histoire, je vous le dis, il est vraiment hot. Mais il a été sacrifié sur cette croix afin que des êtres imparfaits comme vous et moi, des êtres pécheurs, puissent être pardonnés de leurs péchés. Il y a ce principe en Dieu qui est un principe de justice. Hier, j'étais en train de lire le jugement qui est tombé sur M. Breivik, qui a commis ses atrocités avec 77 morts. Et la population là-bas, à Oslo et dans tout le pays, réclamait justice. S'il avait fallu que cet homme soit simplement déclaré inapte et qu'il ressorte quelques années après, avec son grand sourire affiché lorsqu'il y a eu son jugement, les gens auraient dit, mais quelle injustice! Qu'un homme qui semble vraiment avoir toute sa tête. Et vous savez, l'histoire de l'humanité est remplie de gens qui semblaient vraiment avoir toute leur tête et qui ont commis des abominations. Étudiez l'histoire, vous allez en voir par millions tomber. Mais voyez-vous, dans le cœur de ces gens à Oslo, il y avait cette... Il réclamait cette justice. Il y a ce principe de justice en Dieu, un principe de perfection qui fait qu'aucun d'entre nous ne pouvons passer le test par nous-mêmes parce que nous sommes tous pécheurs. parce que nous avons tous de ces moments de petitesse, d'hypocrisie, de mensonge, je vais le dire crûment comme on le dit au Québec, de vacherie. Ça fait partie de notre histoire, ça, à chacun d'entre nous. On les connaît. Ce sont des ondes qu'on voudrait, c'est des parties qu'on voudrait effacer sur la vidéo de notre vie. Et voilà, Dieu est témoin de toutes choses depuis le début de l'histoire de l'humanité comme créateur. Et un jour, chacun se présenteront devant lui. Et ce Christ venait pour être sacrifié sur la croix afin que par son sacrifice, il puisse se substituer à nous. Prendre notre place. Comme ce bélier a pris la place d'Isaac sur le mont Sinaï, Christ est venu prendre ma place à moi si je place ma foi en lui. Alors voilà pourquoi on devrait croire en lui d'une manière différente de tout ce qu'on peut avoir comme foi dans tous les grands hommes, toutes les grandes femmes qui ont traversé l'histoire de l'humanité, parce qu'il se démarque d'une manière indéniable par ce geste extraordinaire d'amour de la part de Dieu. Et enfin, en terminant, le message de Jésus, c'est simple. Si vous croyez en moi, imitez-moi maintenant. Marchez à ma suite. Marchez selon mes principes. Croire en Jésus-Christ, c'est choisir de devenir un imitateur de Christ. Et c'est entre autres pour ça qu'on se fait baptiser. Parce qu'on veut être identifié avec la mort de Christ. Parce qu'on dit nous-mêmes que nous mourons à nous-mêmes pour prendre Christ comme modèle et marcher par lui, à son image, à sa ressemblance, par sa puissance. Et le message de Jésus est relativement simple. Si vous voulez connaître Dieu, aimez-moi et gardez mes commandements. Il y a un tout petit peu plus loin dans ce passage-là, il dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S'aimer comme Christ nous a aimés. » Ça, c'est le premier commandement pour nous qui résume tous les commandements. Parce que lorsque j'aime l'autre, je suis en train de dire que véritablement, je peux aimer Dieu. C'est le commandement qui rend tout concret pour nous. Alors ce matin, je vais vous laisser avec ça, puis avec une invitation, d'accord? J'aimerais ça vous inviter à faire la connaissance personnelle de Jésus-Christ si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez simplement, si vous l'avez à cœur, prendre le temps d'ouvrir une Bible. Vous en avez certainement une chez vous. Vous pouvez en trouver sur Internet. Vous pouvez en écouter en audio sur Internet. On peut vous en donner. Mais prendre le temps de lire un des quatre évangiles. Pour découvrir ce Jésus et pas en rester à une pensée populaire, il a marqué l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes sur la terre vivent et meurent en buvant ses paroles. Il mérite que vous preniez le temps de vous arrêter. Et simplement lire un évangile et écouter ses paroles, regarder ses actes, essayer de saisir ce qui s'est passé à la croix. Et si vous êtes prêt pour cela, si vous êtes prêt à aller plus loin, et ça nous ferait plaisir de faire exactement ce qu'Étienne a fait en prenant le cours « La foi chrétienne expliquée ». Dans deux semaines, on va avoir un cours qui va commencer avec quelqu'un de l'Assemblée ici, Herman, et puis on a réservé la salle de conférence au café à la brûlerie en face. Alors, de 9 à 10, les gens vont prendre un petit café, un petit muffin, et ils vont passer à travers l'Évangile de Marc. Le lire, accompagner, puis discuter ensemble, répondre à des questions pour essayer de se démêler dans tout ça et vraiment saisir davantage. Ça nous ferait plaisir de pouvoir vous accompagner là-dedans. Essayez simplement, humblement de répondre à vos questions, ouvrir les Écritures avec vous. Maintenant, comment aller plus loin? Et là, je m'adresse aux chrétiens. Comment aller plus loin dans notre cheminement chrétien? Moi, ce passage-là me parlait à moi cette semaine. Plusieurs d'entre vous vous dites, « Bon, Yannick a fait un message où il est en train de s'adresser à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. » Mais personnellement, Jean 14 me parlait à moi cette semaine. Parce que le désir de mon cœur, c'est de connaître Dieu intimement, le connaître personnellement et de plus en plus. Et il y a vraiment un beau verset, un tout petit peu plus loin, je ne l'ai pas lu ce matin, je vais terminer avec cette idée-là avant qu'on passe au baptême. Au verset 21, c'est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus nous a dit que si on place notre foi en lui, nous ne demeurons pas orphelins. Tout ce passage-là parle de ça, c'est vraiment beau. Mais il nous dit qu'il nous donne son esprit lorsque nous croyons en lui. Et que son esprit nous habite afin de nous faire connaître davantage le Père, nous faire connaître davantage Jésus-Christ. Mais Jésus revient constamment dans ce passage, Jean 14, Jean 15, vous lirez ça cette semaine, revient constamment sur cette idée, « Gardez mes commandements, demeurez en moi, observez mes commandements. » Alors, si à ce point-ci, dans votre marche chrétienne, vous avez l'impression que ce Dieu-là a pris de la distance avec vous, il est moins présent qu'il l'était au début de votre vie chrétienne, est-il possible qu'à quelque part dans le processus, vous ayez attristé son esprit et que vous ayez pris votre chemin de votre côté? Moi, je veux vous inviter cette semaine à prendre le temps d'examiner vos cœurs et de vous demander dans quelle mesure vous vivez ce commandement de s'aimer les uns les autres à la mesure que Christ nous a aimés. En étant prêt à mourir à vous-même, à vous sacrifier, à devenir des serviteurs, dans le même passage, Jésus lave les pieds de ses disciples. Les disciples ne comprennent pas. Il dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Parce que Christ désire se faire connaître davantage à vous et vous faire connaître le Père davantage. C'est pour cela qu'il est venu. On va prier ensemble. Et je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre à l'avant. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Seigneur, je veux t'adorer avec par mes lèvres. Je veux déclarer devant cette assemblée que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Tu es ma force, tu es ma lumière, comme je le lisais cette semaine dans le psaume 27. Tu es ma lumière, Seigneur Jésus, parce que tu m'as fait connaître le Père. Et de cette lumière diffuse, cette conception éloignée de Dieu, tout est devenu concret pour moi et tout est devenu grâce en toi, Jésus. J'ai trouvé dans ton œuvre, Seigneur, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu et la paix avec moi-même, j'oserais dire, Seigneur. On te prie, Père, pour Étienne qui va passer dans quelques minutes par les eaux du baptême. Viens bénir sa foi. Viens fortifier sa foi. Je te prie, Père, pour chacune des personnes dans cette assistance. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et que celui qui cherche puisse te trouver, Seigneur, dans les évangiles, qu'il puisse te découvrir, Seigneur Jésus. Et je te prie, Père, pour ceux qui sont chrétiens de longue date et qui ont l'impression de te perdre de vue. Seigneur, ramène-les au bercail, dans leur cœur, ramène-les près de ta parole, près de cette obéissance, de cet amour pour toi et pour tes préceptes, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen.